Bien. Plastique égale polluant, c'était le premier titre de la présentation. Mythe et réalité. Qu'est-ce qui est polluant? C'est cet objet-là qui est polluant? Ou c'est ça qui est polluant? Parce que si c'est ça qui est polluant, alors il ne faut pas venir me rechercher et continuer de me critiquer, parce que ça... Pareil. OK? La pollution, c'est la même. Sauf que celle-là, on va dire, elle va durer 500 ans. Et celle-là, elle va durer un an, deux ans, 10 ans, c'est pas très bien. Bon. Alors, j'en ai rajouté un petit peu. On va faire un cours extensif de chimie. Je ne sais pas si on fera une interro écrite à la fin, mais peut-être pas, on n'aura pas le temps. Non, on va faire un tout petit peu de chimie pour vous montrer que la chimie est quand même un peu partout. Puis on va parler d'industrie, pour vous étonner un petit peu. Plastique égale polluant, mythe et réalité, chimie. J'avais marqué chimie verte. Ça c'est une pomme, hein, on est d'accord? On y reviendra. Bon, évidemment, comme il y a beaucoup de garçons... Mais il faut reconnaître que les plus jolies créatures sont les filles, ok? D'accord? C'est comme ça. On y reviendra aussi. Regardez-les. Regardez-les. Ça s'appelle une molécule, hein? Ok? On y reviendra aussi. On va parler un peu de chimie. Et puis, on verra pourquoi les fleurs fleurissent. Et pourquoi, in fine, à la fin, elles vont donner des choses à manger. Pétrochimie, plastique, polymère, ça vous dit quelque chose. On va le réexpliquer tout à l'heure. Donc, systématiquement, on va dire pétrochimie, chimie, plastique, pollution. Il y a encore un truc, là je ne sais pas si c'est un bug dans l'ordinateur, mais elle est encore là. Hein. Évidemment, c'est faux. Et toute la conférence, ça va être pour vous montrer qu'évidemment, c'est faux. Les plastiques, c'est quoi? Un plastique, c'est un matériau qu'on peut mouler, ou qu'on peut modeler, ou qu'on peut transformer à des formes infinies. Plus scientifiquement, un polymère. Vous avez entendu le mot polymère, vous l'avez entendu partout. Polymère. Alors, les polymères, vous les connaissez tous. Je ne pense pas que je vais vous surprendre avec un seul des polymères. Polyéthylène, vous avez entendu parler. Polypropylène. PVC, les tuyaux d'égout, vous avez entendu parler. Le nylon, les culottes, les soutiens-gorge, tout ça, vous avez entendu parler. Polyester, les pneus, tout ça, c'est des polymères. Les peintures, ah. Et les médecines. Elle est encore tombée, là? Il doit y avoir un bug, peut-être, dans le lycée Sisson. Hein? Non, vous inquiétez pas. Alors les polymères sont synthétiques, là il y en a un tout petit peu. Ils sont également naturels. Ouais. La carapace des tortues, c'est un polymère. Et notre copain aussi, le scorpion, il est rempli de polymères. Le caoutchouc. Les polymères, naturels, complètement. Alors le plus beau, que même nous les grands savants chimistes, etc., on n'a toujours pas réussi à synthétiser, et je voudrais bien qu'il y ait des jeunes là-dedans qui s'y penchent un petit peu, on n'a toujours pas su faire un tissu, un fil aussi résistant, aussi fin, aussi merveilleux en élasticité, tout ce que vous voulez, que la toile d'araignée. Il va falloir travailler là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On ne sait toujours pas le synthétiser. Eh oui, la soie, c'est un polymère naturel. Et coûte un peu cher, mais c'est un polymère naturel. Les sécrétions d'insectes, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, qu'est-ce que ça vient faire là? On en fait des médecines. Hein. Les fibres végétales, ben, vous savez bien, le chanvre, le lin, tout ça, c'est du polymère naturel et des tas d'autres. Alors, d'autres polymères verts. La laine, les moutons, la fourrure, coton, les plumes, polymères. l'ambre. Mesdemoiselles, pour vos colliers, polymère naturel. On en a tous sur nous. Eh oui. Même les plus écolos, on est remplis de polymères. Les feux, les ongles, les écailles, les os. Un très très beau, le cristallin. Celui-là, on a enfin réussi à le synthétiser. Une des opérations chirurgicales les plus pratiquées dans le monde maintenant, le remplacement du cristallin de l'œil par un cristallin synthétique. Oui, pour les gourmands, le miel est un polymère. Alors, revenons à notre tortue. Les plastiques, on l'a dit au début, ce sont des polymères. Mais, il n'y a pas assez d'EVA. La soie coûte horriblement cher. Il n'y en a pas assez de toute façon. Les tortues sont protégées. Et les araignées, elles font pas assez de boulot et c'est très difficile à récolter. Donc, il va falloir qu'on passe aux polymères industriels. Vous voyez là, ça va là, quand je suis là? Bien. Alors, les polymères industriels, c'est fait comment? Polymères, on va faire à partir de monomères. OK? OK? Ça nous éclaire bien, hein? Hein? Et les monomères, et les, hein? Les monomères à partir des hydrocarbures, hein? C'est quoi? On va y arriver? Ben oui, on va y arriver. Hydrocarbure, vous entendez le mot tous les jours en ce moment. Hydro, hydrogène, carbure, carbone. Donc les plus connus, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les hydrocarbures? Ben, une énorme partie, 80-85%, va partir en fumée. Pas uniquement en fumée, en donnant quand même de l'énergie. Les transports, les voitures, les bus, les avions. Le chauffage, un petit peu moins à Toulon, un petit peu plus à Stockholm. On est d'accord. Et l'électricité. On essaye de minimiser ça en France, en Europe, mais ça reste encore une grosse partie. 100 tonnes de pétrole qui rentrent à la Med, ou à la Vera, ou à Fos, 85 s'en vont pour faire de l'énergie. Donc des hydrocarbures, pétrole, etc., de l'air, on brûle, fumée, et surtout énergie. Alors, le reste, 15 à 20%. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, une matière première noble, parce que ça s'en va pas complètement en fumée. Pétrochimie. Utilisation diverse qu'on a trop tendance à oublier. Les bitumes pour faire les routes, hein, les trottoirs. Les lubrifiants sans lesquels aucune de vos machines, là, ceux qui font de la maintenance, hein, ne pourraient marcher plus de quelques heures, ok? Les cires. Et dans la pétrochimie, à 10 à 15%, à peine 5 à 8% vont partir en plastique. 100 tonnes du pétrole qui rentre à la Med, 5 à 8 tonnes vont se retrouver sous forme de tous les plastiques qu'on connaît, et on va voir qu'il y en a un sacré paquet. Alors les hydrocarbures, vous les connaissez. Celui-là, le méthane, vous avez entendu parler. J'en ai amené un là. C'est pas facile à transporter. Il n'est pas facile à transporter parce qu'il est stocké à Fos-sur-Mer à moins 160. OK? Donc le voilà. C'est vraiment simple. En noir, c'est l'atome de carbone. En blanc, c'est l'atome d'hydrogène. C'est extrêmement simple. C'est le plus simple. Le seul problème, c'est qu'il est extrêmement inflammable. Et comme je le disais, pour le transporter facilement, ou bien on le comprime énormément, mais il va risquer d'exploser, ou on le refroidit. Alors on le refroidit jusqu'à moins 160 sur le site, en Arabie Saoudite, en Algérie, au Yémen, etc. C'est ce qu'on construit chez Technip. Un gros bateau va venir le sucer, ça s'appelle un méthanier, Il va traverser tout le globe. Il va arriver en France à deux endroits, à Fos-sur-Mer et à Montoire de Bretagne. Il va être sorti du méthanier sous forme liquide, revaporisé, et il va arriver dans votre cuisinière pour faire cuire les nouilles et le steak, éventuellement pour faire aussi du chauffage. Bien. Alors, un autre que vous connaissez aussi, le propane. Vous avez entendu parler du gaz en bouteille. Ben, c'est le propane. Etc., etc., etc. On peut rajouter des tas de carbone et des tas d'hydrogène. On va arriver avec toutes les combinaisons possibles. Alors, ça vient de la Terre. De plus en plus de carbone, des ramifications, des anneaux, etc. Ça vient du pétrole, du gaz naturel, du charbon, vous le saviez. On commence à le sortir du maïs, de la canne à sucre. Évidemment, il y a des tas de gens qui se plaignent que les tas de fumier qu'on voit dans les campagnes, ça sent quelque chose. Ben oui, le fumier fermente et il donne du méthane. Ça sera peut-être une source de gaz, pourquoi pas, sauf que c'est pas facile à récupérer. Ok ? Bien, à vous de vache. Alors, je vais prendre un volontaire. Pas de peau, hein ? Pas de peau. Alors on va compter là les gros ronds là. Les gros ronds, c'est les atomes de carbone. Les professeurs se taisent. Il y en a combien des gros ronds? On compte avec moi. 1, 2, il y en a 8. C'est quoi celui-là? En latin, 8. Donc ça c'est quoi? Eh ben c'est l'octane. Et l'octane c'est quoi? Eh ben c'est l'essence pour le scooter. Eh ben c'est vachement simple, enfin quand même. Hein? Tout le monde le savait, ok? Celui-là, il en a 6, il est un peu plus compliqué, mais c'est juste pour paraître important. Cyclo, hexane, etc., etc. L'octane. Et puis, il y en a qui sont vraiment sympas, qui ont une forme vraiment bien. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont en losange. Il est vraiment bien, celui-là. Ah, celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup de gens l'aiment beaucoup aussi. Il s'appelle le benzène. Vous avez entendu parler. OK? Alors, ceux-là, ils sont très, très importants. Le voilà. OK? Ils ont des arrangements très, très, très intéressants pour la chimie, la pétrochimie, la médecine, la pharmacie, l'alimentation, etc., etc. Très, très, très intéressant, celui-là. Bon. Alors, on a vu déjà quelques composés. Il y en a un qui est quand même super important, qui s'appelle l'éthylène. Et puis, il y a son copain qui s'appelle le propylène. Et puis, son autre copain qui s'appelle le butylène. Mais je m'arrête parce que ça va continuer jusqu'à je ne sais pas quoi. Tout cela va servir à faire des plastiques. Et puis, on va rajouter un petit peu de mon favori dedans, et on va sortir d'un seul coup un pare-choc de voiture. Enfin, il va y avoir des modifications, mais enfin, c'est un peu comme ça. OK ? N'oublions pas aussi que dans la chimie, il y a l'utilisation de ce que vous avez entendu parler, l'oxyde de carbone et puis l'hydrogène. L'oxyde de carbone, c'est ce qui sort du pot d'échappement quand il n'est pas en très très bon état. Il ne faut pas le respirer parce qu'on ne le sent pas du tout et ça vous fait tomber d'un seul coup. Ça vous fait tomber d'un seul coup parce que l'oxyde de carbone, il est vachement avide d'un truc qu'on a dans le corps qui s'appelle l'hémoglobine. Et il la bloque. Donc il va bloquer le cerveau et pof, on tombe et on est mort. Voilà. Alors, ce qui s'appelle l'éthylène, le propylène, je passe assez rapidement, on les appelle les oléfines. La plus simple, c'est celle-là. Je crois que j'ai pu en rattraper une aussi. Comme elle est tellement petite, il faut un microscope pour la rechercher. Ah voilà. Alors, elle est fermée, je ne sais pas si vous voyez de loin, elle est fermée comme ça, deux atomes de carbone et quatre d'hydrogène, mais avec deux bras. Avec deux bras entre les atomes de carbone, là. Là. Et bien ça, c'est super intéressant parce que avec un petit procédé chimique, on va ouvrir un bras, Donc sur celle d'à côté, on va ouvrir un bras. Ils n'ont qu'une idée, c'est de se mettre ensemble. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ça va donner du monomère, le seul qu'il y avait, multiplié des milliards de fois, un polymère. Alors comment ça va se faire? Le voilà, il est là. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Hop. Et hop. Et je le mets à côté d'un copain. Des milliards et des milliards de fois. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça. Ça, c'est quoi? C'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours de ça, avec un microscope. Évidemment, non. C'est, même si on avait un microscope extrêmement puissant, on n'arriverait pas à prendre la photo. C'est effectivement ça, multiplié par des milliards et des milliards de fois. Ça, c'est du polyéthylène. Éthylène, c'est 2H4, souvenez-vous, 2 carbone H4. Alors, c'est 2H4. Regardez le gros vert ici, un carbone, à côté un autre, 1, 2, 3, 4 hydrogènes. Il a ouvert, il s'est mis à côté d'un autre, il s'est mis à côté d'un autre des milliards et des milliards de fois. Ok ? Voilà un polymère. C'est ça. Bien. Alors les polymères, il y en a des tas et des tas et des tas. Le plus compliqué, par exemple, là, les panneaux de polystyrène qu'on va mettre là-haut. Ok ? Des polymères aussi. Il n'y a pas que de l'éthylène. Là, c'est du styrène. C'est avec la molécule en X, là, etc. Bien. Alors ça a commencé quand, ces aventures? Eh bien, il y a plus de 150 ans. Hein. Il y a des amérlocs qui avaient pris un petit peu de formol, qu'ils connaissaient déjà en 1860. Ils ont tripatouillé. Il en est sorti une balle de ping-pong. Enfin, pas réellement une balle de ping-pong, comme une balle de ping-pong. Le premier plastique, ça a été le celluloïde, cellulose, formol avec de la cellulose, etc. Et ils ont trouvé ça en 1862. On a attendu quand même 40 ans pour qu'un monsieur Backeland y fasse une erreur dans son laboratoire de chimie. Il a trouvé un plastique vachement dur, qu'il a appelé de son nom, bakélite, qui a servi à faire les premiers isolants électriques au monde. Il y a encore des vieilles maisons qui ont des interrupteurs et des prises de courant en bakélite. Puis alors après, ça a été assez vite. Il y a une petite société américaine qui s'appelle DuPont de Nemours, DuPont, qui a été un des premiers à trouver les polymères textiles, en particulier les nylons, en particulier les premiers parachutes de la Deuxième Guerre mondiale. Exclusivité DuPont de Nemours. C'est sûr que faire un parachute avec une petite toile un peu mouillée à 4000 mètres d'altitude, c'était peut-être pas réellement... tandis que le nylon... Donc ça, c'est DuPont de Nemours. Ils ont trouvé aussi le PVC, polyvinyl chloride. Tout le monde comprend. Chlorure de polyvinyle, qui sert à faire tous les descentes de gouttières, les tuyaux d'alimentation d'eau, etc. Ok ? Etc, etc, polyéthylène. Et puis alors après, ça a explosé. Et on continue encore aujourd'hui, puisque si je vous parle de téflon, vous allez me dire « Ah, mais c'est ce qu'on met dans les poêles à frire okay ?» Alors qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas un plastique qui résistait au-dessus de 100 degrés. On y reviendra tout à l'heure. Bien. Alors, on en est où? Dans le monde aujourd'hui, à peu près, grosso modo, 4 milliards de tonnes de produits par an. À peu près en pétrole, ok? Ce qui donne à peu près 30 milliards de tonnes de CO2. L'acier ne fait que le quart, 1 milliard de tonnes. L'acier, dans le monde, le quart du pétrole. On sent que l'acier, ça pèse lourd, on ne s'imagine pas que c'est 4 fois moins que le pétrole. Plastique, pour ainsi dire négligeable, hein, 200 millions de tonnes dans le monde. Qu'est-ce que vous préférez recevoir sur le nez, vous, monsieur? Ça, ce sac en plastique, ou 3 grammes d'acide sulfurique? Bien sûr. Alors moi, j'ai reçu de l'acide sulfurique au labo quand j'étais à l'école. Je l'ai encore, 90 ans après. Hein. Ok. Oui, parce que les années à l'étranger, ça compte double. Okay. Bien. Production de caoutchouc, 20 millions de tonnes naturelles. Et encore, on n'en est pas sûr. Les déchets aux États-Unis, plus que toute la production mondiale de plastique. Alors évidemment, ça comprend le papier, ça comprend, etc. 240 millions de tonnes. Mon favori, l'éthylène, 150 millions de tonnes, on y reviendra. Eh oui. Mais il faut peut-être pas oublier que on a de plus en plus de population. De sortir du pétrole, de l'acier, c'est bien. Mais on en est déjà à presque 600 millions de tonnes de riz par an. Okay. Et ça va continuer d'augmenter. On verra comment on arrive à l'augmenter aussi. Combien est-ce qu'il y a de voitures, d'avions dans le monde aujourd'hui?
950 millions.
Non, c'est complètement faux. Ça a encore augmenté. On en est à plus du milliard. On en est à plus d'un milliard d'engins motorisés, avions, tracteurs, etc., mobilettes, tondeuses à gazon. Ce qui veut dire au minimum 5 milliards de pneus. Qui vont pas tous venir de la canne à sucre et du soja. OK ? Il va falloir y penser parce que dans quelques années, comment est-ce qu'on va les fabriquer et tout ? On va y penser. Et le papier représente quand même beaucoup plus que tout le plastique, 300 millions de tonnes. Alors, bon, le CO2, on en parle beaucoup. Il faut quand même pas se laisser trop influencer. Ce qu'on fait, nous, les hommes, c'est 31 milliards de tonnes. Alors la Chine est enfin devenue le premier producteur mondial, ça y est, la Chine enfin devient le numéro 1 en CO2. Les animaux bactéries en font 10 à 20 fois plus, le volcan, un seul volcan, etc. Bon, je vais vite là-dessus parce qu'il y a des tas de polémiques et tout. Bien, ce que je voulais dire, c'est qu'une centrale thermique au charbon, ça en fait quand même relativement peu. Nos usines, j'y reviendrai tout à l'heure, ça fait pour ainsi dire rien. Chaque fois que vous brûlez un kilo d'essence, c'est-à-dire 1,4 litre, hein, densité de l'essence 0,7, okay, 0,8, on fait 3 kilos de CO2, et puis, tiens, vous lisez comme moi, là?
Oui, il y a un concombre.
Il y a un concombre, là, hein?
Ouais.
Et là?
Il y a
et là? Est-ce que ça serait pas pour ça qu'il y a eu le bug, là, de la pomme, là, qui est tombée, peut-être? Éthylène de 1 kilo de pomme? Bien sûr, on y reviendra, hein. C'est pas, hein. OK? Alors, l'énergie fait 11 milliards de tonnes, les ciments 1 milliard, le raffinage 800, métallurgie. Je vais assez vite, la pétrochimie relativement peu. Pétrochimie, moins de 3% des émissions. Parce que tout, on me dit toujours à moi, oh là là, tu fais des usines chimiques, qu'est-ce que tu fais comme CO2? Ils oublient complètement qu'on fait tous les textiles, etc. Moi, je fais du CO2. J'en fais presque rien comparé aux autres. Bien. Enfin, ça n'influe pas du tout, puisque le CO2 dans l'atmosphère, on en est à moins d'un 1/50 de %. Alors, pour faire un pneu équivalent, un pneu normal, 27 litres de pétrole. Pour faire une tonne de jus d'orange, 130 litres. Pour faire un ordinateur, l'équivalent de 600 litres de pétrole. Pourquoi ? Ben, il y a d'abord l'énergie pour faire le plastique. Il y a toute l'énergie pour extraire les composés métalliques des puces. Donc, c'est pas évident. Donc, ça prend de l'énergie, 600 litres. Un hamburger, 1,3 litre. Un appartement, pas à Toulon, à Paris. L'appartement de 4 pièces, 1600 litres. Un blue jean, 25 litres. Celui-là, 1/100 de litre. Celui-là, 200 fois plus de pétrole pour la même capacité. Pas l'oublier. Y compris la coupe du bois, le transport, le traitement, etc. Bien. Alors, on comprend tous l'anglais. Vous le réalisez pas, mais j'aurais dû le demander avant. Combien il y a eu de sacs en plastique à peu près faits par an dans le monde? Bon, il y en a plus de 10 000 milliards. OK, 10 000 milliards pour 7 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'on en fait, on en consomme pas mal. OK. Donc le plastique est apparu pour les sacs dans les années 50. Et maintenant, on me dit toujours à moi, ah ben tu fais ça, donc t'es polluant. Ce à quoi je réponds, c'est ça qui est polluant. OK ? Bien. Alors, pour vous, là, les plus jeunes, il va y avoir des opportunités formidables de nouvelles industries. C'est fini, on ne va plus laisser les plastiques, les textiles, etc. n'importe où. Il va falloir penser à comment les récupérer, comment les recycler, comment les réutiliser, je dirais presque ad vitam aeternam. Il y a déjà des gens dans d'autres pays, et ça commence à m'énerver un peu vis-à-vis de l'Europe, qui réutilisent massivement beaucoup de plastique. Et il y a un gars aux États-Unis que j'ai vu l'année dernière, qui prend les plastiques les plus dégueulasses qui soient et qui met son usine en disant « c'est la plus écolo du monde, je ne traite que du plastique ». Qu'est-ce qu'il en fait ? Il en fait des traverses de chemin de fer. Eh bien oui, il les fait parfaitement à la dimension, imputrescibles. Chaque fois qu'il fait une traverse, il économise 5 ou 10 arbres. Et il pourra les réutiliser, les réutiliser. Et ceux-là, ils ne pourrissent pas, ils ne se déforment pas et tout. Bien. Donc il va falloir réutiliser, recycler, récupérer, changer. En France, en 2003, 85 000 tonnes, on fait des progrès, 45 000 tonnes, en 2005. Donc c'est une nouvelle ressource pour vous, des opportunités formidables. Je le maintiens. Alors, plus de 75% de toutes les médecines sont protégé par du plastique. J'ai vu tout à l'heure que vous étiez tombé en moto. J'arrive, vite, une transfusion. Ah oui, mais c'est du plastique, vous acceptez quand même, hein? Si on n'avait pas ça, on serait mal pour les secours d'urgence, hein? Alors, je ne fais pas de pub, aucune. J'ai pris une société française. Alors, c'est un parfum. Alors, amidopropyl bétaïne, PEG7 glycéryl, propylène glycol, méthylglucose, dioléate, sodium chloride, c'est le sel, hydrogenated castor oil, tiens, très bien, méthylparabenzène, phénoxyéthanol, etc. Vous continuez de prendre des machins comme ça? Mais évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement. Jamais la nature ne pourrait produire autant que ce qu'on demande, rien que pour ces parfums-là, etc., etc. Alors évidemment, dans les hôpitaux, je suis allé passer la visite médicale annuelle, etc., on m'a mis tout un truc en plastique, et le gars m'a dit, ben, c'est ce qu'il y a de plus propre, il n'y a aucune bactérie dedans. Je lui ai dit, mais vous le réutilisez? Ah oui, on va le mettre dans ce truc-là, et ça va repartir dans la société qui va le refaire, etc. Bien. Vos mobiles, là, plastique. Protection des pompiers. Voilà, encore un autre truc. Il y a à peine 10 ans, les pompiers avaient encore leur casque en métal, très lourd, et qui transmettait vachement bien la chaleur. Ben oui, le métal. Maintenant, on leur fait des casques en plastique qui résistent jusqu'à 300 degrés, qui sont légers, et qu'on peut, à la limite, mouler à la forme. Okay. Isolation, jouer, article de port, on va y revenir. Un sac en papier, 70% de polluants, 50 fois plus de polluants en eau, 4 fois plus d'énergie pour produire, etc. N'oublions pas que 150 000 sacs en papier pour le supermarché du coin, il y a 10 ans, c'était un semi-remorque. 150 000 sacs en papier, aujourd'hui, pour le même supermarché, même contenance par sac, dans le coffre d'une voiture. Pétrole et gaz. Base de produits de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Ben, vous prenez les transports en commun ou pas, complètement envahi de plastique, on y reviendra tout à l'heure. Le bâtiment. Bah, les tuyaux, les peintures, les câbles, les isolations, les revêtements, les sols, le textile, bien sûr, la maison, okay. Même si les biberons sont plus ou moins en polyphénol, etc., on commence à regarder. Hein, okay. Ça, on l'ignore, mais si on n'a plus de pétrole pour faire nos médicaments et nos vaccins, je suis un peu ennuyé. Ça, vous le savez, avec mon favori. Ok. Ça, ça. Bien. Alors, un Américain de Chicago, à peu près 120 kilos de plastique, équivalent plastique par an. J'entends dans sa voiture, ses vêtements, sa brosse à dents, les médicaments, etc. À peu près 120 kilos par an. Chez nous, là, en Europe, on est pas mal. Jusqu'à 110, hein. 110. Mais, donc c'est vous qui avez la conclusion. Vous avez la conclusion, parce que si, dans quelques années, les Chinois et les Indiens arrivent à consommer la moitié de plastique que consomment les Européens et les Américains, il n'y a plus assez de pétrole et de gaz naturel dans le monde. Donc oublions les transports, ok ? La moitié. Ok ? Ok ? Ils sont 11 fois plus. Ils sont 11 fois plus et ils consomment 5 à 6 fois moins. Donc multiplié par 60, ça ne tiendra pas. Ok ? Donc il faut réfléchir à ça. Alors comment ils sont faits ces produits ? On est vraiment envahis, hein ? Alors, on va parler un peu industrie là. Vous avez le pétrole qui sort. Hop, il sort d'une plateforme en mer ou il sort d'un puits. C'est Technip qui va s'en occuper au départ. On va enlever l'eau salée qu'il y a, on va enlever le gaz et on va le mettre dans un bateau. Hop, il arrive à la Med. On le décharge. Ça, c'est du pétrole. Okay. On le décharge, on l'envoie d'abord dans une raffinerie et de la raffinerie, on va sortir un produit ou deux produits qui vont nous servir à nous pour faire la pétrochimie. Ok ? Alors, on va voir comment ça se passe. La pétrochimie, c'est revenir à mes trucs favoris, là, hein, ceux-là, et puis l'autre là-bas, oléfine, aromatique, éthylène, propylène, benzène, butadiène, blablabla. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait ces premiers produits, ça partira encore dans d'autres usines derrière pour faire les polyéthylène, polystyrène, polybutadiène, ABS, etc. Ok ? Bien. Ben voilà comment ça se passe. Le pétrole, il arrive là. Là, les racines, c'est une raffinerie. Ça va passer dans une première énorme unité. Il y en a deux pas tellement loin d'ici. Shell, enfin l'ancien Shell Bert, qui s'appelle Obet, qui a été repris par des Allemands il n'y a pas longtemps. Et l'ancien BP, qui était à la Vera, qui continue de tourner. Problème, c'est que moi j'ai mis en marche celle de Bert il y a 80 ans. Ça compte double, hein. Okay. Donc maintenant, elle est un petit peu démodée et elle produit que ça. Donc on va avoir des soucis de la maintenir. Qu'est-ce qu'on va en sortir de cette unité qui s'appelle le craqueur ou le vapocraquage ? Eh bien, les produits de base pour tout ça, vous les connaissez. HDPE, tout ça, tout polyéthylène téréphtalate, etc. Voilà. Ça s'appelle l'arbre des plastiques. Inutile de vous dire que c'est un arbre extrêmement simplifié parce que derrière, il y a encore des tas de ramifications. Chaque année, il se met en fleurs encore plus et il en fait encore plus. Bon, alors, ah, tu fais des plastiques, c'est dégoûtant. Mademoiselle, une vache, ça donne combien de litres de lait par an ? Mais qu'est-ce qu'on apprend dans ces lycées ? Une vache, combien ça donnait dans les années 60 ? Grosso modo. C'est moi qui fais la conférence, donc c'est moi qui ai la réponse. À peu près 4000 litres par an. Dans les années 60, une vache Holstein, c'est-à-dire la Bretonne noire et blanche. Hein. La Normande donne un tout petit peu plus, mais elle donne un peu moins de viande. Bon. Oh. Et aujourd'hui, 50 ans après, elle donne le double. Une vache normale dans notre pays d'élevage et de pâturage, qui sont nos deux. Hop, ça doit donner à peu près 8000 à 9000 litres de lait par an par vache. Pourquoi je parle de ça ? Comment ça a pu se faire en 50 ans ? meilleure alimentation. Vous êtes tous passés par les routes et vous voyez surtout en ce moment, dans les champs, ces énormes balles blanches, noires, vertes, qui conservent le foin, qui le conservent tout l'hiver, avec ses bonnes propriétés. De même qu'en Inde, qui était en famine il y a 50 ans, aujourd'hui, ils ne perdent plus de bouffe. Pareil pour nos vaches, on ne perd plus les bonnes qualités du foin qui a été récolté au mois d'août, septembre, octobre, novembre, et mis sous balle, qu'on peut donc leur donner. Il y a des meilleurs médicaments. Évidemment, il y a un suivi aussi médical. En 50 ans, la production standard d'une même vache en lait a doublé. 8, 9, 10 000 litres de lait par an. OK ? Bien sûr, le foin d'aujourd'hui, c'est pas le même que celui d'il y a 50 ans. Vous ne laissez pas avoir par eux, c'est modifié, etc. On a des engrais maintenant spécifiques. Et on a aussi des protections contre les petites bêtes qui veulent le bouffer avant les vaches. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien, alors le lait, en plus, ben, vous le voyez tous comme moi, on le trouve dans les supermarchés, même pas besoin d'être refroidi, dans les petites bouteilles, vous regardez dessus, date de conservation, 3 mois. Quand j'étais petit, au siècle dernier, on allait encore chercher le lait dans des bouteilles en verre, conservation dans les premiers frigos, un jour et demi. Bien. Alors, pétrochimie. Ben, je vais m'attaquer au professeur, tiens. Pétrochimie. Le benzène et le propylène, ça donne le cumène, très bien. Et puis le phénol, et puis la vanilline. C'est quoi la vanilline ? La vanilline ? C'est la vanille qu'on trouve dans les yaourts. Ouais, toute petite utilisation. La vanilline, c'est la base pétrochimique du paracétamol. OK ? Le paracétamol qui empêche d'avoir les maux de tête, etc. Voilà. La vanilline synthétique, quand elle coûte 1, la vanille, vanilline naturelle récoltée, en particulier géographie, à Madagascar et à La Réunion, coûte 250. Bon, bah, très bien, c'est qu'une question de prix, on a les moyens. Oui, sauf que la vanille naturelle, on pense, comme c'est récolté à la main, qu'il y en a à peu près 2 000 à 2 500 tonnes de récoltées par an, alors que la demande, rien que pour le paracétamol, va être à peu près de 20 000 tonnes. Okay. Voilà. Bien. Alors le phénol, c'est un composé qui est fait avec ça. Il va donner l'acide acétoxybenzoïque, plus connu sous le nom aspirine. Ah, aspirine. OK ? Voilà, aspirine. Alors, comme on a des outils de détection de plus en plus sophistiqués, même dans le lait maternel, on a trouvé de l'aspartame. Alors qu'on est en train de nous dire, mais il faut surtout pas manger d'aspartame, il y en a dans le lait maternel. Quand on va faire pipi, on fait de l'urée. Eh bien, l'urée, c'est le marqueur de l'ADN. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Oh là 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 là. OK ? Bien. Alors, on ne connaît pas le chiffre exact. Je pense qu'il est plus fort que ça. Il y a plus de 90% de toutes les médecines du monde qui seront faites à partir de pétrochimie. Ah oui, ça faisait partie d'un... Oh, ben là, on va aller très vite, tiens. L'énergie. L'eau sur le globe terrestre. 99,5% de l'eau est soit sous forme de glace dans les pôles, soit salée. 98%, c'est de l'eau de mer. Donc, il reste quoi ? Ben, il reste 0,5%. L'eau douce, 1/5 millième de l'eau disponible sur le globe, en particulier dans les lacs. Monsieur Garetta, le plus grand lac du monde ? Le plus grand lac du monde d'eau douce ? La Caspienne. OK ? La Caspienne. Ben, je pense pas que la Caspienne va permettre d'amener de l'eau douce dans tous les pays du monde, au Chili, au Canada, etc. Ça va être difficile. 1/10 millième de l'eau dans les rivières, les lacs, les fleuves, et un petit peu dans les nuages. OK ? Ce qui représente pour le globe, alors je le dis exprès pour les jeunes, en ce moment de disponible dans le monde, une baignoire d'eau salée, un quart de cuillère à café d'eau douce. Du travail pour vous, parce qu'il va falloir la trouver, l'eau douce. Hein. À moins que vous y mettiez tous à boire de l'eau salée et à utiliser de l'eau salée pour tout faire de la vapeur, etc. Bien. Alors le soleil, bon ben le soleil, là je passe très rapidement, le soleil 1 milliard 400 millions de kilomètres de diamètre, très bien, enfin Bételgeuse 700 millions de kilomètres, bon je passe là-dessus, ça c'est plus intéressant ça. En 50, en 70 ans, votre cœur va faire 152 000 tonnes, circuler 152 000 tonnes de sang. On est quand même pas mal fait, hein, donc il va falloir l'entretenir, hein, ok. Et vous qui êtes particulièrement costaud, vous arrivez à soulever 50 fois votre poids?
Normal.
Hein? 50 fois? Tu pèses à peu près 50 kilos? Ok. Tu arrives à lever 2 tonnes 5? Ok. Non, tout ça pour montrer est-ce que c'est l'humanité qui perturbe le système planétaire. C'est pas évident. Bien, allez, on passe. Bon. Alors. Revenons à de la chimie fondamentale. Alors l'éthylène, c'est quoi? C'est un gros business chez nous, chez Technip. C'est un business à peu près de 10 milliards d'euros par an dans le monde. C'est quand même pas négligeable. Okay? En ce moment, le monde en produit 150 millions de tonnes et c'est le produit de base pour des dérivés que vous connaissez tous par cœur. Ça, vous l'utilisez tous les jours. Ça, oubliez la marque, très souvent, de toute façon, vous en êtes entouré. Ça, tous les jours, ça a permis d'économiser énormément de nourriture dans le monde entier. Ça, tous les jours. Ça, oubliez la marque, les médicaments. Ça, le vrai ou le jouet, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ça, je voudrais bien l'utiliser tous les jours. Ok. Ça, je regrette, mais tout le monde l'utilise tous les jours. Enfin, je le souhaite pour vous, je pense. Vous bouffez tous les jours? Ouais. On y reviendra. Les 10 plastiques les plus utilisés dans le monde, vous en avez entendu parler, polyéthylène. Le voilà. Polypropylène, le tableau de bord des voitures, par exemple, ou le pare-choc. Polystyrène, la mousse isolante, les gobelets. Polyuréthane, les peintures. PVC, les tuyaux d'égout. Polyester, les culottes. Nylon, les brassières, les soutiens-gorge. Kevlar. Très bien. Des plastiques en gilet pare-balles, effectivement. Perspex, vous connaissez pas, c'est ces énormes panneaux de plastique transparent où on met les publicités derrière. Téflon. Allez, faites-moi le plaisir d'avoir la réaction bien française. Téflon, les poils à frire, la bouffe. Il n'y a qu'en France où on dit ça. C'est mineur. Téflon, en particulier, les veines artificielles, les artères artificielles. Ok? Bien.
Il en manque un.
Lequel? Ah non, c'est pas un des plus utilisés dans le monde. Hein. Tous issus de cette énorme usine. Oh, oh, oh! L'éthylène, c'est quoi? On lit en cœur. On lit.
Hormone gazeuse.
Alors, quand j'ai fait mes études, personne d'entre vous n'était né. C'était il y a tellement longtemps. En particulier en chimie. On m'a dit, oh là là, c'est vraiment bien, dans le monde, il y a déjà des produits chimiques naturels, le charbon, le pétrole, le méthane, etc. Mais malheureusement, celui qui nous intéresse le plus, c'est l'éthylène ou le benzène, et il n'est pas naturel, il faut qu'on le fabrique. Et alors, il y a des gens qui ont continué d'observer, des biochimistes, etc., et en 90-91, ils ont découvert que tous les fruits, tous les légumes, etc., produisaient de l'éthylène à partir d'un composé naturel qui se trouve dans tous les fruits, les légumes, les plantes, s'appelle la méthionine. On va voir le rôle quand même de cet éthylène. En fait, au XVIIIe siècle, il n'y a pas de Hollandais dans la salle. De toute façon, ça ne me gêne pas, je l'ai déjà faite en Hollande, cette présentation. Il n'y a que des Hollandais pour foutre de l'acide sulfurique dans du pinard. Les Français ne mettraient jamais d'acide sulfurique dans du vin. Jamais. Donc il y a un Hollandais qui a mis de l'acide sulfurique dans une espèce de liqueur, on ne sait pas si c'est du vin, il y avait de l'éthanol dedans, ça a donné de l'éthylène. D'où le premier nom, le gaz liqueur des Hollandais, gaz hydrogéné, huileux. Alors c'est la base de toute la pétrochimie, en particulier à partir des années 20, des années 30. Alors c'est fait comment ? C'est fait dans des fours énormes. En un dixième de seconde, on va chauffer à 800 et quelques degrés un produit qui sort de la raffinerie de la Med, par exemple. Okay. Et en présence de vapeur, à 800 degrés, la vapeur d'eau, elle ne bouge pas, qui va nous servir à contrôler un petit peu la réaction. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Très haute température, réaction à 800-900 degrés, un dixième, deux dixièmes de seconde. On chauffe ça, crac, à la sortie on a de l'éthylène. C'est un petit peu plus compliqué, on va voir. Mais la théorie c'est ça. Ok ? Alors vous avez tout de suite reconnu, voilà, là il y a des fours. Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez la taille du four, là, il y a le mec là, il est là. Ok ? Puis il y a l'autre qui se promène. Donc ça, c'est dans un des pays du Moyen-Orient, évidemment. Bon, ça, c'est de la technologie Technip. Ça fait 3-4 mètres de haut. Ensuite, on va avoir une section qu'on appelle la section de radiation, où on va faire la réaction. Et au-dessus, on a la section dite de convection, où on récupère pas mal de chaleur. Alors, un four comme ça, bon, je vous le fais, vous en voulez combien, 2 ou 3 ? Bon, je vous le fais à 15-20 millions d'euros par four. Hein ? Mais c'est vous qui amènerez le produit pour dedans. C'est vous qui en assurez la maintenance. Hein ? C'est pas tout à fait évident. Hein ? Ok ? Alors là, c'était en Arabie Saoudite. Les Arabes de la Saoudie nous avaient dit « Ah ben nous, on a un chantier pas trop loin de l'endroit où on met l'usine, à 7 km. C'est complètement plat. Est-ce qu'on pourrait pas faire construire déjà les fours par notre chantier puis les amener sur le site ?» On a dit pourquoi pas, ça va. Ouais, bon, enfin, l'argent, c'est pas un problème en Arabie Saoudite. Donc on les a fait là-bas, sauf qu'à l'intérieur de ces fours, on a quand même des briques réfractaires, comme dans une chaudière, et que les briques réfractaires, ça n'aime pas beaucoup être transportées. OK ? Même si le terrain est plat. Donc on les a construits sur le chantier, on les a amenés, on les a remis sur pilotis, etc. Ça pèse quand même 2-3 000 tonnes par four. Hein. OK ? Et on a mis les briques après. Donc vous voyez qu'au point de vue transport logistique, il y avait des petits trucs sympas à faire, ne serait-ce qu'une petite route déjà. Ok ? J'ai dit d'éteindre son portable. C'est fou, hein, comme les gens n'obéissent pas. Hein. Bon. Tout ça pour vous dire que c'est quand même l'élément principal d'une unité de pétrochimie. Alors là, ça, c'est pas loin, ça. Ça, c'est à Berre, là, à Aubette. On a surpris des gars qui faisaient de l'escalade. Vous les voyez, les gars qui font de l'escalade, là ? Vous les voyez pas bien ? Là, il est là. Vous les voyez, là ? Mais non, pas du tout, c'est les peintres. On n'est pas loin du bord de la mer, donc il faut faire de l'entretien, de la maintenance. OK ? Ça, c'est à Aubette. Alors, à l'intérieur, bon, éteint, évidemment, hein. Alors, comment ça va se passer, la réaction ? Vous avez tous entendu parler de tubes de réaction. OK ? Donc, voilà les tubes. Ils sont comme ça. Ils vont faire une douzaine de mètres de haut. Ils sont là. Hop, 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 comme ça. De l'autre côté, on a dit qu'on chauffait. Ce sont les brûleurs. Ils sont là. Les brûleurs vont chauffer les parois, pas directement les tubes. Si on chauffe directement les tubes, on fait des points chauds. le tube aime pas. Donc on va chauffer les parois et ça va faire la radiation. Ok ? Donc ça, c'est un petit four pas mal. On voit bien les briques réfractaires, là. Il est bien. Il est bien. On fait encore plus grand. Alors voilà comment on va distribuer les produits à l'intérieur. Ça, c'est les tubes de réaction. Pour ceux qui sont intéressés par les soudures, c'est des matériaux qui coûtent un petit peu cher parce que chaque tube doit faire à peu près 1500 à 2000 euros. Ça, ça coûte 1500 euros. Ça, ça coûte 2000 euros, etc. Avec des soudures pas tristes. Hein. C'est pas de l'acier au carbone. Okay. Bien. C'est en particulier les aciéries pompées du manoir près du Havre qui nous font ça. Bon, et ben voilà. Donc à l'intérieur, quand ça sera allumé, voilà les brûleurs, on chauffe les parois et les tubes, la réaction est là. Pouf, ça y est, j'ai fait de l'éthylène. Un dixième de seconde. 1700, 1800 degrés les flammes. 1200, 1300 degrés à l'intérieur. Maximum 1170 sur le tube. Et à l'intérieur, 800 à 900 degrés. Très simple. Reculez-vous un petit peu parce qu'on va voir si ça fait chaud là. Ah ouais, ça fait chaud. Vous voyez tous là? Alors on a des espèces de petites lunettes où on peut passer des caméras et on filme un four qui marche, on filme à l'intérieur. Vous mettez pas votre doigt trop près, hein. Ok. Ok. Parce que là, même la figure, vous mettez pas, hein. Il y a une protection. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça chauffe tranquillement à 1600, 1700, 1800 degrés. Ok. Et la réaction se fait tranquille. Bien. On avance. Bon, alors inutile de vous dire, on fait cette réaction paf à toute vitesse, etc. On fait plein de trucs, en particulier de l'éthylène. Celui qui m'intéresse, c'est l'éthylène, le propylène, le benzène, je l'ai déjà parlé. Donc il va falloir les séparer. Eh bien, on va les séparer chacun un par un. Ok ? On va tout faire de l'hydrogène jusqu'à un produit vraiment dégueulasse, visqueux. On va faire toute la palette des produits chimiques. Ensuite, il n'y a plus qu'à trier et les séparer. Bien. Alors on va faire de la compression, du refroidissement, de la distillation, de la réfrigération, etc. Voilà comment on fait un projet de pétrochimie. Parce que la pétrochimie, quelquefois, ça peut être un petit peu sportif. Inutile de vous dire que tout ça doit être calculé, construit, testé et en maintenance permanente. Ok ? Il y a des colonnes à distiller, vous voyez pas, il y a des compresseurs, des pompes, etc., de l'électronique, de l'électricité, un petit peu de tuyauterie. Là, pour cette usine-là, il y a dû avoir à peu près 35 000 à 40 000 kilomètres de tuyaux. Okay. Bon, les garçons, là, on regarde la pompe. Ok, on regarde pas la jeune personne, on regarde la pompe. Donc ça... Comme on est à des températures très élevées, on va devoir refroidir, parce qu'on ne va pas tripoter ces produits à 800 degrés. Et on refroidit maintenant de préférence, là on a beaucoup d'eau, donc au bord de la mer. Ça c'est quand même une pompe assez grosse, elle est encore faite en France. Dans la région de Tours, elle fait quand même que 20 000 tonnes à l'heure. C'est quand même pas mal. Elle sera entraînée soit par un énorme moteur électrique, soit par une turbine à vapeur. Qu'il faudra maintenir. Bon, ça, c'est un petit compresseur, mais il est petit celui-là. Celui-là, il va descendre qu'à moins 40. C'est un compresseur de frigo. Ok, il est fabriqué en Italie, celui-là. Ouais, mais moi, je préfère celui-là. Alors, celui-là, c'est quand même un des plus gros du monde, qu'on a installé au Moyen-Orient. Il fait 90 mégawatts. Il est quand même pas mal. Il aurait pu être construit il y a quelque temps par une société française. Malheureusement, elle n'existe plus. Alstom pour faire ça. Ça a été fait chez Siemens. Bon. Quand on fait tous ces calculs, etc., bah, il faut bien transporter nos produits. Il faut bien les amener sur le site. Il faut bien avec les équipes qu'on a, ben, il faut faire du transport de produits fragiles, quelquefois. OK ? OK ? Ben voilà, en Extrême-Orient, ils arrivent à se débrouiller avec du plastique. Hein. OK ? Et puis ils le récupèrent. Récupération. OK ? Alors, un peu plus sérieusement. Hop, un peu plus sérieusement, on a quand même des appareils qui sont assez gros. Ça, c'est notre copine Annette. Annette, elle a que deux ou trois frères et sœurs dans le monde pour transporter des énormes équipements. Elle va transporter ça. Elle va transporter ça. Là. OK ? 800 tonnes, c'est pas la plus grosse, hein. On va monter jusqu'à 1200 tonnes, 90 mètres de long. On n'invente pas ce truc-là. Ça se prévoit 8 mois à l'avance, parce que le bateau, il faut le réserver. Les grues, il va falloir les réserver aussi. Et de l'autre côté, il va falloir voir aussi comment on va le décharger. OK ? Donc en logistique, des trucs intéressants, voilà. Donc là, on en a chargé deux. OK ? Voilà le gars, vous le voyez pas, il est là, là, hein. Avec son copain. Vous imaginez bien que des bateaux comme ça, qui arrivent à transporter des colonnes de 100 mètres de long, il n'y en a pas partout. Et alors le transport des personnes sur nos chantiers, un chantier d'une usine d'éthylène aujourd'hui, c'est à peu près 12 000 personnes en pointe. Donc ça veut dire qu'on a un site de construction qui est encore plus grand que la future usine elle-même. Donc il faut nourrir, loger, approvisionner, nettoyer 10 à 12 000 personnes par chantier. Il faut les amener. OK ? OK ? Voilà. Ça, c'est en Extrême-Orient. Ben, ils s'amènent l'argent. Bon, et puis on a des petits jouets pour les monter. On a des petits jouets pour les mécaniciens. OK ? Cette grue qui va vous monter des colonnes de 1000 tonnes à 80 mètres de haut, il faut la réserver un an à l'avance. Là, voilà. Alors, il faut deux autres grues pour la monter d'abord, et ensuite, on va pouvoir monter les colonnes. Bien. Alors, revenons à l'éthylène. Énorme usine, propriété du groupe, moyen de calcul sophistiqué, discipline, multiple, les plastiques, et la moitié de la production actuelle est à remplacer. Une usine d'éthylène, très chaud, très très chaud, plus chaud que la lave, très froid, on va descendre à moins 160, okay. Là j'ai même pas eu besoin de mettre d'isolation, c'est encore pas loin d'un désert en Arabie Saoudite, même s'il fait pas très humide dehors, le peu d'humidité ça me donne une couche de glace suffisante pour faire l'isolation, à l'intérieur il fait que moins 100, okay. Très haute pression, 120 bars, très basse pression, sous vide, paf. Très puissant, bien plus puissant qu'un porte-avions. Okay, très grand, 4 fois Bercy, minimum. Okay, très gros. Là, on fait maintenant 200 tonnes à l'heure d'éthylène. Okay, 200 tonnes. Okay, et de plus en plus gros, par contre, super précis. Et ça pourrait être dangereux, mais très sécurisant, on a peu d'accidents, pour ainsi dire pas. Très bien dépollué. Alors, dans plusieurs pays où je suis allé, je préfère boire l'eau qui vient de notre système de dépollution, que l'eau du robinet, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Pour ceux qui m'avaient posé la question de fiabilité, dans nos calculs, dans nos commandes, dans nos conceptions de machines, dans nos constructions de machines et dans notre maintenance, il faut que ça tourne sans s'arrêter pendant 5, 6, voire même 7 ans. Pourquoi ? Parce que c'est tellement gros derrière, il y a tellement d'usines qui en dépendent qu'on peut pas, elles peuvent pas être ah ben là je vais pas produire, etc. Il faut que ça soit en continu, comme les raffineries. Sauf que nos raffineries, elles ont 40 ans, elles n'étaient pas conçues pour ça. Aujourd'hui, tous les gros clients, en particulier du Moyen-Orient, Extrême-Orient, nous disent il faut que ça tourne 5, 6, 7 ans sans s'arrêter. Au point de vue maintenance, des problèmes intéressants. OK ? Donc l'éthylène, mon favori, nécessaire, incontournable, base de toute la pétrochimie. producteur d'éthylène dans le monde. On ne le savait pas, on l'a découvert. Les Chinois en faisaient déjà, en sens. La fumée pour préserver les momies. L'éthylène avait une espèce de propriété, ben, un peu déjà comme du polyéthylène, etc., depuis des millénaires. Alors, il y a 6 ou 7 ans, j'avais lu que les astronomes de Meudon, là près de Paris, venaient de publier un truc. On a vu que sur Neptune, il y avait de l'éthylène. Donc, je les ai appelés. Je leur ai dit, mais vous avez trouvé de l'éthylène? Oui, 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 vous savez ce que c'est que l'éthylène? J'ai dit, oui, un petit peu, oui, oui. On pourrait peut-être échanger des idées. Nous, on est dans l'éthylène. Ah bon, bon, oui, ben, venez nous voir, etc. On va à Meudon. On est accueillis dans un foutoir. Mais des papiers partout, des mecs, la tête en l'air complètement. Ils étaient même pas sur le sol, ils étaient en lévitation. Et puis, ils nous disent, bah oui, on a trouvé de l'éthylène sur Neptune, vous savez, ça peut être intéressant parce que ça a des propriétés spectroscopiques, etc. On dit, oui, puisque nous, dans nos usines, alors ils nous regardent et disent, mais vous faites de l'éthylène? Et bah oui, c'est un gros produit pétrochimique. Ah, on fait de l'éthylène sur Terre? Authentique, hein? Authentique. Bon, évidemment, ils avaient les mêmes appareils pour trouver de l'éthylène sur Neptune que nous on l'a pour l'analyser à la Vera, etc. Alors, tous les fruits et légumes, on l'a déjà dit, quels effets? Eh bien, ça, on l'a trouvé, c'est que s'il n'y a pas d'éthylène, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de plantes. Ah ben oui, pour ceux qui me traitaient de polluants, l'éthylène, c'est la base de toute la germination, fructification, jusqu'au pourrissement. OK? Donc, ça stimule le mûrissement des fruits. Pourquoi ça a été trouvé en particulier dans les pays du Nord? Parce que le gars de l'université de Norvège m'a dit, on en a marre d'importer les tomates d'Espagne du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Nous, on en produit pendant 3 jours et après, il fait trop froid. OK? Pareil pour les cerises, etc. Donc, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé ça. Maintenant, ils se font des serres à Stockholm et à Oslo avec un petit peu d'éthylène dessus. On y reviendra. Ça a des actions bénéfiques ou contraires. OK? Sert de signal d'alarme pour les plantes. Je vais bientôt en avoir fini, mais celle-là, il faut que je vous la raconte. Il y a des biochimistes qui sont allés dans les forêts tropicales pour observer les girafes. Pourquoi pas? Ça nous éloigne un petit peu du lycée de métier. Ils observent les girafes et voient la première girafe qui arrive sur le baobab, l'acacia géant, et qui commence à bouffer les feuilles. Sa copine, très polie, va pas l'empêcher, elle va sur l'arbre à côté, et elle commence aussi, mais moins bien. La troisième copine, très polie, va sur le troisième arbre, ça va pas du tout. La quatrième arrive, ils s'en vont. Les mecs se disent, bon, y avait des crottes d'oiseaux sur les feuilles. Ils observent ça pendant des jours et des semaines, toujours le même processus. Ils se disent, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier acacia, le premier baobab attaqué, a eu une réaction. Il a produit plus d'éthylène que normal. Premier effet, ça a durci les feuilles. Ces feuilles ont durci très vite. Et ça a envoyé un courant d'éthylène supplémentaire au deuxième acacia. Oh merde, il se passe quelque chose. Il a durci ses feuilles. Le troisième, encore plus. Authentique. Bien. Alors, on a été plus loin. Vous remarquerez en particulier que la pomme... Tiens. La pomme produit pas mal d'éthylène. Vous comprenez mon truc? La pomme produit pas mal d'éthylène. La poire, etc. L'artichaut, le raisin, très très peu. Alors, le fruit de la passion, la grenadine, on n'en fait pas beaucoup en France. Bon. Je vous signale quand même que si la terre entière était recouverte de pommiers, ça suffirait pas du tout à faire tout le polyéthylène dont on a besoin, ok? Et en plus, ça ne produit qu'entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Donc ça va pas. Bien. Alors, la pomme en fait à peu près 100 ppm, partie par million, par unité, pareil qu'une fumée de cigarette, hein. Ok? Ou qu'un chariot élévateur. Bien. Alors, on savait très très bien que nos ancêtres, quand ils voulaient faire mûrir des fruits, ils mettaient des pommes dans leur panier de fruits. et ils observaient que les fruits à côté mûrissaient. Ils ne savaient pas pourquoi. Moi non plus. Okay. Vous non plus d'ailleurs. Maintenant vous le savez. Okay. Et il y a un peintre vénitien, italien, Arcimboldo, qui a fait des paniers comme ça. Ils sont pas mal, il y a eu une exposition. Donc il a bien mis des pommes à côté des fruits. On y reviendra. Alors quel effet ça a? Ben, en plus de durcir les feuilles d'acacia, s'il y a trop de pommes, hein, la sensibilité à l'éthylène, par exemple, de l'abricot, il va pourrir très vite, parce qu'il va mûrir, et puis pourrir. Okay. Pareil pour la pêche, pareil pour les pommes à côté. Okay. Par contre, vous pouvez mettre plein de pommes à côté de l'ananas, ça lui fera pas grand-chose. Bien, alors les effets intéressants ou inintéressants, ben, ça fait jaunir les brocolis, ça fait ramollir les concombres, ça fait faire des taches brunes sur les laitues, et ça, par contre, ça empêche la germination des pommes de terre. Ah, pouvoir les conserver. Ok? Alors les bananes. Ben, les bananes, elles sont récoltées au Costa Rica, vertes, dures. Une journée. Une journée pour les mettre dans le conteneur. Troisième jour, le conteneur arrive sur le port. Cinquième jour, il est sur le bateau. Dixième jour, il arrive à Marseille. De quatorzième jour, il faut qu'il soit au supermarché du coin, relativement jaune, mais pas pourri. Donc, dès le départ, on va mettre un petit peu d'éthylène pour contrôler le mûrissement pendant tout le transport. OK ? L'éthylène vert, un produit utilisé sous le matricule 1 pour mûrir les fruits. Bien, substitut des pays nordiques, j'en ai parlé. Riz en Asie, plein de nouveaux engrais comportent maintenant de l'éthylène qui, en se libérant, favorise la poussée du riz. Au lieu de faire une récolte par an, on va pouvoir, sur le même site, en faire deux, voire même trois. Les girafes, etc. Donc, par exemple, mon éthylène favori, indispensable, universel. Ok ? En conclusion, nous avons, nous, les pétrochimistes, chimistes, une mauvaise image. Elle s'améliore, parce qu'on était les plus mauvais après l'industrie nucléaire. Maintenant, c'est le traitement des déchets, donc on s'améliore. Ok ? Bien. Composés irremplaçables, j'espère que je vous ai convaincu. Des millions et des millions d'emplois et des milliards d'euros. Elle reste très naturelle. La preuve. Il y en a là-dedans. Ces jeunes personnes, elles ont des stockings, comme on dit là, des collants en polyester. OK ? Elles ont des combinaisons en nylon. OK ? Elles ont du shampoing à partir de pétrochimie. Elles ont du make-up, là, du maquillage à partir de pétrochimie. OK ? Elles jouent avec des cerceaux en polyéthylène, des ballons en polypropylène, sur un tapis en polypropylène. OK ? Vous voyez, elles jouent avec de la chimie. Bon, je pense quand même qu'à l'intérieur, elles restent tout à fait naturelles. OK ? Bien. Et puis, la floraison. Bon. Eh bien, Arcimboldo, pour terminer, les pommes, vous en souviendrez ? Vous en souviendrez ? Aussi simple que ça.